Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une fois n'est pas coutume, mes chers frères, je ne vais pas m'atteler aujourd'hui à l'homélie au sens strict, homilia, de commentaire de l'Évangile. Je ne vais même pas m'intéresser à l'Épître, parce que cette semaine, nous sommes au cœur de l'octave de prière qui est préconisée par l'Église depuis quelques décennies pour l'unité des chrétiens. Autrement appelé, même si ça teinte un peu difficilement aux oreilles de certains aujourd'hui, l'expression peut agacer, octave de prière pour le retour des chrétiens séparés à l'unité romaine. Voilà l'enjeu. Il me semble opportun de dire quelques mots de cette unité entre chrétiens, entre frères séparés, tous ceux qui se réclament du Christ, et il me semble capital de considérer quelques instants le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour que puisse exister réellement le retour à l'unité, c'est-à-dire l'œcuménisme. Alors, pour aborder sereinement les choses, parce que j'en devine qui se demande s'il va sortir encore de la bouche de l'abbé, pour aborder sereinement les choses, je crois qu'il faut avant tout décharger le terme d'œcuménisme de toute connotation un petit peu erronée ou un petit peu excessive, parfois totalement farfelue, telle qu'on en a vu proliférer depuis quelques décennies dans le sein même de l'Église. Spontanément, nous sommes un peu rétifs, nous sommes un peu perplexes, nous autres tradis, devant un tel terme, parce que nous ne savons pas trop de quoi il s'agit, et parce que nous craignons que l'œcuménisme soit un peu comme cette clé de la boîte de Pandore. Une fois qu'on a ouvert cette boîte, le pire est à attendre. L'œcuménisme, en réalité, mes frères, ce n'est pas autre chose qu'un mouvement centrifuge. Il y a pour cœur, nous le savons, non pas la papauté, encore qu'elle ait une place centrale, mais Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. La division semble inhérente, parce que je vais reprendre les choses par en haut quand même. On ne va pas s'arrêter aux tentatives de réunification, aux différentes expressions de dialogue contemporain, encore que ce soit nécessaire. Je veux reprendre les choses par en haut, comme d'habitude, et vous montrer que la division semble inhérente à notre pauvre condition humaine. C'est-à-dire que depuis le péché originel, eh bien, la race humaine est scindée de toutes parts. Une fois qu'ils ont mangé le fameux fruit, nos pauvres parents ne se supportent plus nus l'un devant l'autre. C'est-à-dire que toutes sortes de préjugés, toutes sortes de démarches captatives qui empêchent une vraie connaissance de l'autre et un repli sur soi empêchent l'unité du genre humain. Vous voyez qu'il n'aura pas fallu longtemps pour que la division s'instaure. Mais les vraies conséquences de cette division première entre Adam et Ève, on ne les sonde qu'à la génération suivante. C'est Abel et Caïn dont on sait que l'aîné a pourfendu son frère par jalousie. Mais nous savons qu'à chaque génération se reproduit cette scission, se reproduit cette opposition au sein de la race humaine. En réalité, ce processus de séparation inauguré sous Adam et Ève, eh bien, n'a toujours pas touché son terme. Et depuis l'époque de nos premiers parents, Satan se complaît à nous faire croire que la division est naturelle à la race humaine. Or, nous savons bien que cela est totalement faux. Parce que dans le dessein premier de Dieu, dans son projet sur l'humanité, il y avait une unité foncière. Ne nous dit-on pas dans le livre de la Genèse que l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu et que la race humaine tout entière est faite à l'image de Dieu? Mais à quoi renvoie cette image sinon à la Trinité Sainte? Et qu'est-ce que la Trinité sinon trois personnes unies consubstantiellement, c'est-à-dire ayant en partage une même essence divine, unique, absolument indissoluble, indissociable? Les trois sont la communion. Si nous autres, dans la race humaine, sommes à l'image de la Trinité Sainte, alors nous sommes faits pour la communion, dès le début. En réalité, le dessein divin de l'unité sur la race humaine n'a pas été mis en échec, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement à ce que l'expérience quotidienne du métro, tout simplement, ou plus profondément, l'expérience quotidienne de la division entre frères chrétiens pourrait nous faire croire. Dieu ne s'est jamais résolu à cette division, parce que Dieu est l'unité même et parce que Dieu veut l'unité même. Mieux encore, Dieu, nous le savons, a voulu instaurer entre les hommes une unité encore plus profonde que l'unité primordiale entre Adam et Ève. Ce n'est plus seulement l'un et l'autre feront une seule chair, ça s'applique en fait à toute la race humaine. C'est une unité fondée sur la pierre angulaire qu'est le Christ. C'est une unité qui est fondée par la participation de chacun d'entre nous, chrétiens, à laissant à, oui, la nature même de Dieu. Et rien moins que cela. Dieu a voulu une unité encore plus étroite. C'est extraordinaire. Dieu le Père offre aux hommes d'être configurés à son Fils. Si nous sommes configurés au Fils, alors nous devenons, nous aussi, des fils du Père. Notre relation au Père est, d'une certaine manière, aussi étroite que celle du Fils éternel à son Père. Voyez à quoi Dieu nous appelle. Et ça, c'est un secret qui était caché, comme nous dit saint Paul, depuis la nuit des temps, depuis des siècles. Dieu, avant tous les siècles, nous avait prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, à entretenir avec lui une relation extrêmement étroite, sur le modèle de cette relation qui unit le Père au Fils. C'est ce que nous dit Jésus. Le secret nous est livré par le Seigneur, alors même qu'il vient de partager la première messe, la dernière scène, le jeudi saint, qu'il vient de laver les pieds de ses apôtres et qu'il vient de se livrer à un certain nombre de discours où il leur parle des trois personnes divines, où il leur parle du Saint-Esprit qui viendra leur enseigner la vérité tout entière. Tout ce discours-là, avant que l'ensemble des apôtres et du Christ ne partent pour le jardin des Oliviers, tout cela s'achève sur quoi ? Sur ce qu'on appelle le discours sacerdotal de Jésus. Jean, chapitre 17. Je vous invite vraiment, pour que cette semaine de l'unité soit vraiment fervente, à aller lire ce chapitre 17. Que lit-on ? Père, que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Que aussi ils soient en nous. Et un peu plus loin, qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'il soit parfait dans l'unité. Voilà le dessein de Dieu depuis des siècles, bien avant même le péché originel. Vous voyez que cette chute d'Adam et ses conséquences extrêmement néfastes dont nous faisons l'expérience, jusque dans les couples que vous composez, jusque dans les relations entre parents et enfants, jusque dans les relations entre chrétiens qui devraient être des relations de communion, eh bien, en dépit de toutes ces divisions, Dieu nous propose une unité parfaite. Et Dieu n'a jamais revu ce projet parce que Lucifer aurait trop endommagé la création. Jamais. Parce que Dieu, nous dit l'Écriture, n'échoue pas. C'est magnifique. Voyez. Et les premiers chrétiens étaient dans l'émerveillement. Évidemment, eux qui avaient été les témoins oculaires du Christ, eux qui avaient entendu, recueilli cet enseignement formidable du Christ, eh bien, mettaient tous leurs ailes à pratiquer concrètement une vie unie. Les actes des apôtres en témoignent, de ce zèle de l'unité primitive, vous voyez. Ils étaient assidus à la communion fraternelle, ils mettaient tout en commun. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Alors là, ça laisse songeur et ça nous permet de rêver. Vous voyez, notre pauvre communauté qui pourtant a déjà un embryon d'unité, qu'est-elle par rapport à l'Église primitive et à cette unité fondamentale? Il ne formait qu'un cœur et qu'une âme. Où en sommes-nous, mes frères, de cette communion fraternelle qui animait les premiers chrétiens à la demande de Jésus? Mais cependant, rapidement, et là ça nous rassure un petit peu parce qu'on se dit que bon, ces apôtres-là, finalement, étaient bien comme nous, eh bien, la bonne vieille inclination à la division s'est instaurée à nouveau au sein de l'Église primitive. C'est l'horreur. Et comme dans la parabole, le semeur vient de semer son champ, de la semence du ferment d'unité dans son champ, ça devrait être fécond, et voilà que, à peine le semeur retiré pour aller dormir la nuit, arrive le diviseur qui, lui, vient faire une semence de zizanie. Les oppositions entre les premiers chrétiens, les actes des apôtres en témoignent. Ces oppositions, elles sont terribles, entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Saint Paul ne cesse, à travers ses épîtres, de relater ces événements qui lui ont coûté, qui ont fait saigner son cœur de père. Parce que, aussitôt qu'il avait établi une communauté chrétienne, aussitôt qu'il avait réussi à enseigner la foi aux païens, eh bien, des disciples, des chrétiens, étaient à leur tour entrés dans ces mêmes communautés et avaient semé la division apprenant à ces communautés à désobéir à saint Paul, faisant croire à ces communautés que saint Paul ne leur voulait pas du bien mais du mal et qu'il enseignait des choses hétérodoxes. Voyez, certains ne jouèrent pas le jeu dès l'Église primitive, dès l'époque des apôtres, de cette unité fondamentale. Je fais allusion par exemple à Anani et Saphire, dont vous savez qu'ils ont détourné une partie de l'argent qu'ils touchaient de leur champ, parce qu'il fallait vendre ces biens pour mettre l'argent au profit de la communauté chrétienne. Eh bien, eux avaient détourné une partie et l'avaient gardée par devant eux. Vous voyez cette scission dès le début, ce mensonge. Simon, le magicien, dont parlent encore une fois les Actes des Apôtres, ce magicien converti, voyez, qui a l'indélicatesse de demander aux apôtres qu'ils veuillent bien lui vendre le pouvoir d'imposer les mains, d'où l'expression de simonie. On n'a pas attendu très longtemps pour vendre les sacrements. Vous voyez, dès le début, donc, les hérésies, les scissions de toutes sortes se sont imposées au sein même de l'Église unie. Et nous savons ce qui advint un peu plus tard, ce fut le drame, cette séparation de l'Orient avec l'Occident, lorsque les patriarches orientaux ont fait scission avec Rome, et encore plus tard, cette scission au sein même de l'Église d'Occident avec les communautés issues de la réforme protestante. Voyez, depuis l'entrée dans la modernité, les hommes ont cru pouvoir prendre acte du fait qu'on ne pourrait plus fonder l'unité sur le Christ. Alors on a inventé toutes sortes de systèmes pour pallier cela, parce qu'au fond du cœur de l'homme, il y a cette aspiration profonde à l'unité. Elle ne peut plus se faire par le Christ, disait-on, alors on la fera autrement. Et on voit comment la race humaine a rusé pour essayer de restaurer cette unité perdue. Ce furent les dictatures totalitaires, les systèmes idéologiques qui cherchaient à faire fusionner l'individu dans ce grand tout, dans cette masse, et à coup de bottes ferrées. On a d'autres versions un peu plus soft de ces systèmes sans Dieu qui veulent pourtant l'unité de la race humaine. Je parle de ces systèmes qui prônent le dialogue, qui pensent qu'à grand renfort de discussion, de débat, nous arriverons à l'unité entre les hommes. Vous voyez bien que tout cela est vain, et nous savons très bien les fruits terribles qu'ont porté ces erreurs qui cherchent à instaurer l'unité entre les hommes autrement que par le Christ. Ces deux tendances, je vous le ferai remarquer, mais je sais que vous le savez bien, ces deux tendances se sont infiltrées au sein même des rangs de l'Église, où on a eu tantôt une politique casse-la-pointe, un peu totalitaire, il faut le dire. Il y a certains papes, ils n'ont pas été jusqu'au bout, parce qu'ils étaient assistés divinement. Mais certaines époques de l'Église récentes font penser, je suis navré, à des périodes totalitaires, où l'on essaye de ne voir qu'une tête, où l'on brise toute personne qui sort, tant soit peu, du giron. Le magistère, je vous le rappelle, n'a jamais failli, mais les représentants du pouvoir dans l'Église ont parfois pu être indélicat. C'est vrai. Et le magistère l'a reconnu. Le magistère postérieur a reconnu cela. Vous voyez, sans jamais errer dans l'assistance que Dieu permettait à Pierre et au collège des apôtres unis à Pierre, eh bien, certains se sont, dans certaines congrégations romaines, cru autorisés à des actes d'autorité qui étaient des actes, en réalité, un peu tyranniques. Et puis il y a l'autre tendance que nous stigmatisons davantage, nous autres tradis, qui est cette tendance, alors là, au dialogue. Voilà, l'Église en marche. En vue de quoi? Elle ne sait pas trop, cette Église. Elle se cherche. Elle ne cherche pas seulement son Dieu, ce qui est sa vocation. Elle se cherche, ce qui est déjà nettement moins sa vocation. Vous voyez que ces tendances-là, nous en sommes tous, quelle que soit notre tendance, disons, dans l'Église, nous en sommes tous peu ou prou contaminés, d'une manière ou d'une autre. Alors quel est le remède pour que l'unité puisse enfin être instaurée, ou plutôt restaurée, entre chrétiens? Quel est le remède? Bien, vous le savez bien, là encore, vous voyez qu'aujourd'hui je ne vous apprends rien, mais je mets devant vos yeux des réalités qu'il nous faut méditer sans cesse, et notamment pendant cette octave de prière pour l'unité et le retour des chrétiens séparés. Comment se fait cette unité? Vous direz, c'est une lapalissade, ben, dans le Christ. Quand on est chrétien, comment faire l'unité sinon par la tête, par le chef, celui qui a instauré tout le christianisme? Et dans le Christ seulement, pas autrement, ni dans le dialogue, ni dans les coups de schlag, que nous obtiendrons l'unité. Et le thème que le Saint-Père a voulu pour cette année, et pour cette semaine de l'unité cette année, je le trouve magnifique. Tous nous serons transformés par la victoire de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ni dans l'ordre du dialogue stérile, ni dans l'ordre de bottes ferrées, vous voyez. C'est la victoire du Christ qui va nous transformer. Quelle posture adopter concrètement? C'est là qu'il faut en venir quand même pour atterrir sincèrement. Alors, il faut bien tenir que seule l'Église catholique romaine possède la plénitude des moyens de salut. Ça, c'est clair et net. La foi orthodoxe, le septenaire des sacrements et la houlette du bon pasteur, on ne les trouve que dans l'Église. Et ce sont les moyens de salut institués par Jésus et les seuls moyens de salut institués par Jésus. Mais à cet égard, il faudrait se demander, puisque rapidement, enfin facilement, nous prêchons à l'égard des frères séparés, toutes sortes de... Et nous avons raison, nous prônons ces trois moyens. Et nous dénonçons le fait que telle ou telle communauté, ou tel ou tel individu de la Réforme ou de l'Orient ne soit pas en adéquation avec un de ces trois moyens. Et nous, mes frères, où sommes-nous par rapport à l'application de ces trois moyens? Où en sommes-nous de la foi orthodoxe? Où en sommes-nous de la formation doctrinale? Non pas celle que nous avons reçue lorsque nous avions 15 ans, et que nous allions au catéchisme bien docilement, mais cette formation perpétuelle que requiert la vertu de foi. Parce que notre intelligence doit être éclairée au jour le jour. Où en sommes-nous de la pratique sacramentelle? Avons-nous une profonde dévotion eucharistique? Avons-nous une fréquentation sacrement de pénitence et une fréquentation récurrente? Où en sommes-nous du sacrement de mariage que certains d'entre vous se sont échangés? Où en suis-je, me direz-vous, où en êtes-vous, monsieur l'abbé, quant au sacrement de l'ordre que vous avez reçu? Et oui, j'en conviens, nous sommes tous insuffisants. Et où en sommes-nous de la soumission au souverain pontife, que nous cessons de prôner, et nous avons raison, mais que nous cessons d'abîmer par telle ou telle critique pas toujours très opportune, il faut bien le dire. Qui sommes-nous? Avons-nous lu vraiment les textes du magistère? Pas qu'on ne puisse jamais critiquer fraternellement et filialement plutôt le magistère, mais encore faut-il se souvenir de qui nous sommes, et encore faut-il s'être assuré auparavant d'avoir bien lu les textes du magistère. Voyez. Alors, deuxième étape, après avoir bien pris en considération ces trois moyens, deuxième étape, il faut accepter, et c'est très difficile, pour qu'il y ait un dialogue vraiment fécond, il faut accepter de se mettre à la place de nos frères séparés. C'est-à-dire qu'il faut connaître leur position. Savons-nous vraiment ce que pensent nos frères de la Réforme et ce que pensent nos frères de l'Orient? Avons-nous quelques notions sur leur théologie, sur leur ecclésiologie? Avons-nous quelques notions sur les fins dernières qu'ils prônent? Pas très facile. Tellement les communautés sont diverses et variées. Voyez. Et souvent, nous avons des idées hâtives auxquelles nous nous arrêtons. C'est trop facile, mes frères. Il faut aller fouiller, se demander ce que ces gens-là pensent. Et il faut se demander également pourquoi, à un moment de l'histoire, leurs fondateurs se sont séparés de l'Église indivise. Pourquoi? Pourquoi l'Orient a-t-il si violemment quitté le giron romain? Pourquoi nos frères réformés ont-ils, par Luther, Calvin et d'autres, claqué la porte de Rome? Pas en partie, je dis bien en partie, pour des motifs légitime, la dénonciation de scandales dans le comportement de certains chrétiens. Sommes-nous des chrétiens exemplaires? Sommes-nous des catholiques exemplaires qui donnons envie à nos frères séparés de rejoindre le giron de l'Église? Ça, c'est encore une autre question qu'il nous faut nous poser cette semaine. Et puis, troisième étape, il faut, et c'est là l'essentiel en réalité, prier et servir. Ora et labora, rien de nouveau. Vous voyez, le Saint-Père, dans son discours d'ouverture de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je le cite, « Cette victoire du Christ, la victoire de l'unité, ne passe ni par le pouvoir, ni par la puissance. Cette victoire du Christ est celle de l'amour, de l'entraide et du service mutuel. » Nous pouvons devenir victorieux seulement en nous convertissant. C'est une sorte de théorie du chaos, mais toute bénéfique. Vous connaissez cette théorie du chaos, je la résume très brièvement. Un papillon bat des ailes à un endroit de l'univers, vous direz, mais il ne connaît rien du tout, c'est très, très schématique. Oui, je fais bref parce que je vois que le sermon dure et que vous endormez. le papillon bat des ailes et quelque part à l'autre bout de l'univers, par une sorte de diffusion de cette énergie, si l'on veut, eh bien, un cyclone se déclenche. Même effet, c'est exactement ce qui se passe si nous sommes assidus à vivre de notre belle religion catholique. Tout saint qui s'élève, élève le monde. Tout acte vertueux, si minime soit-il, souvenez-vous de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ramasse une épingle et qui roule pour un missionnaire à l'autre bout de la planète, comme elle le dit. Songez à la fécondité de chacun des petits gestes de Thérèse de Lisieux. Et nous pouvons faire exactement la même chose. Nous prions, nous passons 2 minutes de prière, nous confessons, nous venons communier pieusement et l'unité des chrétiens est favorisée. Et c'est quelque chose d'absolument formidable. Alors je vous rappelle ces 3 choses auxquelles il faudra songer cette semaine, si vous le voulez bien, pour que cette prière soit féconde, conformément à ce que veut le Saint-Esprit, par la bouche du pape. Premièrement, considérez ces 3 moyens de salut et votre relation à ces 3 moyens de salut. La foi catholique, la doctrine catholique, où en êtes-vous de la formation? Les sacrements, où en êtes-vous de la fréquentation des sacrements? Et de la fidélité aux engagements sacramentels que vous avez pris? Et la soumission au souverain pontife, où en êtes-vous de cette soumission filiale au souverain pontife? Deuxièmement, le dialogue avec nos frères séparés, où en êtes-vous de la connaissance des doctrines des frères séparés et des motifs pour lesquels ils ont quitté le giron? Et troisièmement, la prière et le service mutuel. Je vous laisse méditer en confiant toute cette petite chapelle et notre effort de cette semaine à la garde très aimante de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.